Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
Alors, on vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.
Ero tentato, ma no, e va bene, lo so. Ma com'è bella la vita e la tua faccia alle sei di mattina.
Ma tu non piangere. Non si.
Aligre FM presenta Cappuccino.
Il presentatore del 9:30 è Michele Gotti con i suoi invitati.
Ciao Michelino,
pourquoi
come
tu
stai?
Rigoles? Parce que j'ai dit qu'il faisait beau.
Ouais, parce que j'ai dit pour une fois il fait beau.
Tu vois, toute la semaine il paraît.
Bah, j'espère parce que là c'était un peu froid quand même.
Frais mais assez, humide. Assez sympa. Voilà. Voilà. Alors on salue Mastro Angelo.
Mastro Giovanni parce que sinon ouais.
Mais c'est très joli quand même comme prénom comme tu l'as appelé tout à l'heure.
Ouais.
Le Maestro Angelo.
Bon,
c'est bien.
Je l'ai vexé.
Voilà. Non, c'était pour rigoler. Voilà. Bon, ben, bon, il y a tous plein de bonnes choses. Et alors, aujourd'hui, on est quand même un petit peu tristounet parce que, voilà, vous savez tous que Claudia Cardinale est décédée cette semaine. Donc, ben, on va vous proposer, dans cette troisième partie de l'émission, une petite bio avec des extraits. Hein. Donc, le prénom Claude va être à l'honneur aujourd'hui sur les ondes d'Aligre FM avec, pour commencer, cette partie de Capuche. Donc, un hommage à la petite fille de la Goulette, Claudia Cardinale, décédée cette semaine avec Alain Amengual et vers 10h, Claude Malpelli nous contera son itinéraire d'un fils d'émigré italien. Donc, bon réveil à tous, bon cappuccino. Et puis, bien sûr, on aura quand même d'abord quelques informations culturelles. Lino, come stai?
Bene, benone, benone. Come al solito. Si.
D'accord. Et notre ami Raffaellito? Ça va, malgré que le résultat de...
Oh là 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 là.
Ça fait un peu...
Bon. Alors, la Juve, c'est moyen, mais par contre, tu as eu beaucoup de bons résultats des équipes italiennes cette semaine. Tu en as déjà parlé et on en reparlera.
Une belle victoire de Bagna depuis le temps quand même.
Oui, c'est bien. Je crois que c'est la première de l'année. Et puis...
La volleyball.
Eh oui, voilà. Surtout, justement, on en profite puisque tu me lances. En fait, à 12h30, il y a la finale du championnat du monde de pallavolo et l'Italie est en finale contre la Bulgarie.
Voilà.
Et en plus, c'est diffusé en direct sur l'équipe 21. Donc voilà. C'est important, si vous n'avez pas la RAI, vous pouvez le voir à 12h30 sur l'équipe 21. Et un truc aussi, un petit truc sympa que je ne sais pas si vous avez regardé un peu, que peut-être Claude il a regardé aussi, c'est que ça se passe aux Philippines et en fait, ce qui est très étonnant, c'est les tifosi asiatiques qui sont tous pour l'Italie, avec des maillots, avec des petits drapeaux. Alors c'est très rigolo parce qu'ils ne sont pas du tout à l'européenne, ils ne sont pas là, ouais, ouais, gagné, ouais, ouais, ouais. Ils sont là gentiment, quand il y a l'Italie qui met un point, ils font comme ça avec le drapeau, ils le bougent un peu comme ça, et puis avec leur petit maillot comme ça. C'est très étonnant, je ne sais pas pourquoi, et c'était pareil avec les filles. Avec les filles, avec le championnat du monde, il y a quelques semaines, à fond pour l'Italie. Très étonnant cette histoire.
Mais non, parce qu'ils sont très... très discipliné.
Oui, mais pourquoi pour l'Italie spécialement? Tu vois, ils sont
parce
ils ont que tous des maillots,
il y a beaucoup de pays asiatiques oui, aiment
bon,
l'Italie.
Ah bon, ben voilà, peut-être que c'est la culture, voilà, les belles choses à voir.
Ah, ils mangiare.
Allez, les informations culturelles. Irène Amat sera en concert ce lundi 29 septembre à 20h30 au New Morning, qui se trouve au 7 rue des Petites Écuries dans le 10e arrondissement, métro Château d'Eau. Réservation sur le site de New Morning. Ensuite, nous avons Enrico. Enrico, c'est pas notre technicien, qui fait son live à Paris, qui propose son spectacle Je t'aime à l'italienne, spectacle humoristique, sketch, musique, franche rigolade, le dimanche 5 octobre, donc c'est la semaine prochaine à 19h30, à l'Apollo Théâtre, situé au 18 rue du Faubourg du Temple, dans le 11e arrondissement. Ensuite, nous avons l'association de Sono Solo Canzonette de Paola Nigi qui propose un stage de chant populaire à Paris le samedi 4 octobre, donc c'est la semaine prochaine, à Avenue de Choisy dans le 13e métro Maison Blanche. Pour participer à ce stage, pas besoin de connaître l'italien. Par contre, il faut une réservation obligatoire avec le mail canzonette97@yahoo.fr. Et on va démarrer cet hommage à Claudia Cardinale. Et de quoi de mieux que de commencer avec la voix inconfondibile de Claudia Cardinale dans une chanson de David Esposito, Dolce Vita.
Il tempo scorre sulla nostra pelle come un treno senza fermate, lasciando tracce indelebili, ricordi che giorno dopo giorno disegnano l'anima. Così mi torna in mente Roma, il suo profumo, la nostalgia di quei momenti, quando tutto sembrava un sogno, noi, la nostra vita, il nostro amore.
Noi, figli del dopoguerra, un sogno viviamo, lo sai. La musica lontano va, chissà dove mai arriverà. Dolce vita, dolce amore, tutto passa e se ne va, ma
sempre nel mio cuore il nostro amore resterà.
Claudia Cardinale qui restera bien sûr dans nos cœurs. On sent Alain Mengual qui connaît bien sa carrière, on le sent un peu ému, on le sent que
je suis ému à double titre parce que moi aussi je suis fils d'émigrés italiens mais émigrés en Afrique du Nord. Alors elle c'était la Tunisie, moi c'était Alger, l'Algérie, et donc c'est quelque chose qui nous rapprochait quelque part, et on l'avait rencontré il y a très longtemps à Bobigny, et la première fois même, moi, c'était en 2000, à la Cinémathèque à Chaillot, où j'avais invité par l'Istituto Cultura Italiano, que je fréquentais déjà beaucoup à l'époque, à une projection du Guépard restauré, rétrospective Visconti. Et il y avait Claudia, il y avait Alain Delon qui était très sympathique, qui a rendu hommage à tous les autres acteurs étaient disparus, y compris Visconti, Clementi, Romolo Valli, enfin tous les acteurs, il ne restait plus que Claudia et Alain Delon qui étaient vivants et qui sont restés encore jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ouais, survivants.
La petite fille de la Goulette, hein, parle souvent de ce fameux petit port de Tunisie. Et il y a Maria qui nous a appelé en début d'émission, qui nous a dit « Mais moi, je l'ai connue parce qu'en fait, elle donnait des cours à ses enfants parce qu'en fait, elle était très simple, paraît-il, là-bas. » Et il y avait une communauté qui était italo-française qui fonctionnait très bien. Hein. C'était beaucoup de beaux souvenirs pour les gens de là-bas.
Oui, fille d'un cheminot et de culture française puisque ses parents parlaient d'origine italienne, mais parlaient le français. Elle parlait français. En Tunisie, on parlait français à l'époque. Et donc, elle ne parlait pas l'italien. Donc, ses premiers films, elle était doublée par des actrices, y compris Il Gatto Pardo, ce n'est pas encore sa voix. Le premier, ça a été dans 8 et demi, qu'elle tournait en même temps à Rome avec Fellini, sans scénario, comme on le sait, et puis au contraire avec le très strict Visconti dans Le Guépard à Palerme. Elle faisait des allers-retours en avion.
Voilà. Et alors, elle avait cette double culture, parce qu'elle est décédée en France, hein, à Nemours, près de sa fille, et puis elle vivait depuis très longtemps en France, donc elle avait cette double culture.
Oui, oui, bien sûr, elle vivait à Paris, un appartement, boulevard Henri IV, à l'angle, avec les quais, face à l'île Saint-Louis, très bel appartement. On l'avait interviewée pour La Voce, Laetitia De Torre l'avait interviewée après cette rencontre à Bobigny. Oui.
Alors depuis une dizaine d'années, elle se faisait un petit peu plus rare parce qu'effectivement, elle avait quelques soucis de santé, hein. Tout le monde le savait, c'était pas forcément quelque chose de caché. Et donc voilà, alors on peut revenir à son début, à sa carrière. Elle a démarré comment donc,
Alors, elle a démarré surtout un petit peu par hasard au début, parce qu'elle est figurante dans un film français d'ailleurs qui s'appelle Les cœurs voilés. Et ensuite, elle a été Miss Italie, Miss plus belle italienne de Tunis. Et c'est comme ça qu'elle est allée à Rome et que là, on l'a découverte. Voilà.
Et c'est vrai que là, elle ne parlait pas très bien l'italien d'ailleurs, parce que c'est étonnant qu'elle a réussi quand même à faire une si belle carrière, parce qu'au départ, ce n'était pas forcément évident.
Non, puisqu'elle ne parlait que français, donc elle s'est mise à l'italien plus tard. Elle était incapable de s'exprimer correctement dans un film, dans ce qui n'était pas sa langue. Donc ensuite, elle parlait couramment vraiment l'italien qu'elle a appris sérieusement.
Alors on va écouter un extrait, tu parlais de Fellini, tu nous en parleras après, du film 8 et demi. Et là, c'est un tout petit extrait qui dure une trentaine de secondes où elle parle justement de ce fameux Fellini, comment ça fonctionnait avec lui.
La sceneggiatura non l'ho mai avuta. Arrivavo sul set, era tutto pronto, le luci erano pronte, non si sapeva niente. Io mi mettevo lì, Federico diceva di non preoccuparsi, che tutto andava benissimo, sta tranquilla. Prendeva un pezzettino di carta così, prendeva una matita da un altro, cominciava a scrivere un angolino, mi dava un pezzettino di carta, non capivo niente.
Voilà, c'était sympa de l'entendre parler de Fellini, face à tous les acteurs qui disaient ça de Fellini. Oui. En fait, t'arrivais, tu savais pas du tout ce que t'allais faire dans la journée.
Il n'y avait pas de dialogue. Fellini te disait, tu comptes jusqu'à 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou bien jusqu'à 17. Et puis après, il mettait les paroles qu'il n'avait pas du tout écrites comme ça. Donc, c'était vraiment l'improvisation totale. Et ça fait des grands chefs-d'œuvre. Oui.
Et alors, justement, là, elle a tourné dans ce fameux film de 8 et demi. Ça a été une consécration pour la cardinale.
C'était son premier rôle et son premier rôle en italien. Non, avec sa vraie langue, voilà.
D'accord. Et alors là, elle a démarré sa carrière. Alors, il faut dire qu'à l'époque, c'est vrai, le cinéma italien était au sommet. Donc, en fait, tu ne pouvais finalement t'épanouir dans ta carrière qu'en allant tourner en Italie. Les plus grands, même acteurs, Alain Delon, Jean-Louis Trintignant, etc., ont tous été tournés en Italie. Donc, elle a commencé cette carrière. Et alors, après, on peut peut-être parler parce que là, il y a vraiment beaucoup peut-être à dire, ce fameux rôle qu'elle a eu dans Le Guépard, parce qu'elle est connue mondialement grâce à ce rôle. Ça l'a fait consacrer mondialement.
Oui, parce que c'était un grand film, c'était un beau rôle tiré d'un très grand roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Et donc, c'est un chef-d'œuvre de Visconti. Et tous les acteurs sont sortis grandis, y compris elle, puisque elle n'avait débuté que 4 ans avant. Et puis ensuite, elle a travaillé avec les Bolognini, avec Zurlini, et puis même des réalisateurs étrangers. Même Abel Gance, elle a joué Pauline Borghese dans un film d'Abel Gance en noir et blanc, donc à ses débuts.
Et dans Le Guépard, il y avait des acteurs extraordinaires. Tu peux nous donner les noms de...
Il y avait Pierre Clémenti, donc Romolo Valli, Delon évidemment. Burt Lancaster, surtout, que dont à l'origine personne ne voulait parce qu'on pensait que c'était, il n'était bon que dans les rôles de cowboy dans les westerns. Et là, il est devenu un prince sicilien qui a étonné tout le monde. C'était les producteurs qui l'avaient imposé et Visconti n'en voulait pas au début. Et puis finalement, quand il a fait un essai, ils ont discuté un petit peu ensemble et il a dit oui, c'est lui. Et voilà. C'était le grand chef-d'œuvre de.
Le Guépard, quelle année ?
63. Le Guépard comme 8,5 sont sorti en 63, donc tourné en 62.
Alors on va écouter là un petit clin d'œil, hein, c'est un petit clin d'œil, c'est Claudia qui chante dans Les Pétroleuses, la chanson La fille de la prairie. Alors elle chante en anglais, bon honnêtement elle a mieux fait d'être dans le cinéma que dans la chanson parce qu'elle a fait quand même quelques petits titres de chansons, mais honnêtement elle était meilleure au cinéma. Et au départ, écoutez bien, vous allez entendre la voix de Brigitte Bardot.
Et maintenant, la voix d'or la plus célèbre de l'Ouest, celle que vous attendez tous, Maria Sarrazin.
Nothing to do but dream. That's what your heart hangs into. Nothing to do but sing. And I've got a song for you. Oh, you work your woman's heart out on the prairie. And by day your boots are dusty and your rifle's getting rusty in the rain. Oh, you dream of pretty things that come from Paris. While you're sweating in the saddle and you're searching out for cattle that are straying. What a way to be every day, to be out in town, to be men. But oh boy, it is what a joy it is being.
Vous êtes à l'écoute de Cappuccino sur le 93.1 et puis merci d'être avec nous. On rappelle que vous pouvez nous écouter sur Top Italia, sur également donc le site d'Aligre FM, en DAB et bien sûr en FM. Le téléphone c'est le 01 40 24 29 29. Donc on est en train avec Alain Mengual de faire un hommage à Claudia Cardinale. Alors... Bon, oui.
Là, c'était CC contre Bébé, hein, parce que
ah oui,
il y avait Bébé.
Oui. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce film où il y a une rivalité? D'ailleurs, ils ne s'aimaient pas trop au début, hein, ils ne se connaissaient pas trop. Et puis, bah, de grosses vedettes comme ça dans le même film, forcément, ça faisait des grincements de voix.
Oui, oui, bah, oui, non, mais en fait, elles étaient très amies, mais c'était le... Les Pettegolezzi français qui voulaient les opposer, la CC contre la BB.
Est-ce qu'il y a eu une espèce de rivalité à un moment donné entre Claudia Cardinale et Sophia Loren?
Non, c'était les trois grandes.
Avec
en effet,
Gina.
C'était Gina, Sophia et Claudia. Mais non, ça c'est les journaux qui ont fait voir des rivalités. Mais non, chacune avait son style et son genre. Et puis chacune a fait sa carrière et sans en vouloir à ses collègues. Ça, je pense que c'est histoire de faire vendre des journaux simplement.
Oui, c'était les Pettegolezzi, ouais, c'est spread ouais, pour voilà, oui. Voici etc. Et est-ce qu'ils ont tourné ensemble?
Ah non, justement,
non,
elle n'a jamais tourné ni avec Sophia, ni avec Jean.
Ah, ça, c'est
non,
étonnant,
mais,
ouais.
Mais bon, elle a tourné avec tous les acteurs, ouais. Y compris avec Toto, dans un de ses...
Ah, elle a tourné avec Toto.
Le début, c'est ce qu'on appelle en français le pigeon, mais qui est Soliti Ignoti, avec Gassman, avec Renato Salvatori, avec Marcello Mastroianni. Mais là, elle a le petit rôle d'une Sicilienne, justement, que son frère sicilien la garde à la maison parce qu'il lui a trouvé un fiancé. Et en fait, elle est amoureuse de Renato Salvatori, mais elle a un rôle pratiquement muet. Et elle est doublée aussi, là. C'est vraiment son premier rôle. Et puis après... avec Visconti et Rocco et ses frères. Donc là, c'est pareil, avec en plus de Salvatori, sa femme, la femme de, qui est devenue sa femme de, la femme de Salvatori, Adriana Asti, donc c'est le premier Visconti, ensuite le Guépard, aussi Sandra, ensuite avec Bolognini, il bel Antonio, le mauvais chemin, la Viaccia, avec Belmondo, quand la chair succombe ou liberté mon amour, avec Comencini la ragazza di Bube, d'après le roman de Carlo Cossola. Même dans La peau, La pelle de Liliana Cavani, elle a fait vraiment une carrière. Plus de 150 films, vraiment, c'est une carrière extraordinaire. Et le dernier film, on a pu le voir à la Cinémathèque, qui s'appelait L'Ultima Fermata. C'était l'histoire d'un train en Sicile qui devait aller même au-delà de la Sicile et rejoindre même les conquêtes italiennes d'Afrique du Nord. Et
elle a tourné aussi dans le film de Leone. Il était une fois dans l'Ouest.
Oui, aussi, ça, c'est aussi, bien sûr, Léon.
Il y a une séquence extraordinaire. Oui. Elle arrive avec le train. Et ça on la voit sur maintenant tous les réseaux sociaux, parce que c'est une séquence inoubliable.
Oui, mais avec les étrangers, avec Philippe de Broca aussi, avec Verneuil, Blake Edwards, elle joue dans un film des Panthères, et même en dernier avec Manuel de Oliveira, le film, le réalisateur portugais.
Alors, est-ce que on peut dire que c'était un petit peu différent de Sofia, de Gina, parce que c'était une actrice qui, bien sûr, elle était très belle et une belle plastique, mais elle ne jouait pas que sur ça, c'est pas... Sofia ou Gina, c'était plutôt ça au début. Moi, c'est ce qu'on demandait un peu aux femmes dans les années 60. Mais elle était un petit peu différente.
Oui, mais elle faisait jouer moins sur sa beauté physique, certainement. Et elle avait des personnages aussi qui supposaient un peu plus de profondeur.
Alors, on va écouter encore un extrait. Ça, c'est un extrait un peu dur. Un film de 71, ça s'appelle L'Audience. Et on sent qu'à l'époque, les femmes, elles n'étaient pas très bien traitées. Hein, parce que je ne sais pas si maintenant on pourrait tourner ce genre de séquence. Écoutez bien, vous allez voir.
Qui era?
Un amico.
Dimmi il nome.
Un amico.
E tu ricevi gli amici vestito da Marina Letto. Perché dici le bugie?
Ma sei matto?
Non era un amico. Era il principe. Gran vizioso e basta. Ah... Canzonette inglesi e luci psichedeliche.
Sparisci per un sacco di tempo. Io ti aspetto, voglio essere carina con te. Tu appena arrivi mi dai uno schiaffo, non sei il mio padrone. Tu non mi devi trattare così. Devi portarmi rispetto.
Stai ferma.
Sono una donna, non sono una bestia. Chiaro.
Cosa fai, ti spogli? Rimani vestita da marinaretto, no? E scusami.
Non ti scuso. Devo dirti una cosa. Sono incinta.
Abortisci?
Non voglio abortire.
Allora vuol dire che farò da padrino.
Ma non lo capisci che il figlio è tuo.
E perché dovrebbe essere mio se è lecito?
Perché solo con te faccio l'amore. E non dir niente se non ti spacco la faccia! Ma tanto è inutile. Non pensi che a te. Vai via, non mi toccare, vai via.
Voilà, une séquence
c'est
un peu
séquence,
dure.
Oui, de séquence dramatique, oui. Oui.
De 71.
Et donc c'est un film de Marco Ferreri.
Alors, 130 films, on l'a dit, beaucoup
150,
de téléfilms.
150.
Oui. J'étais resté à 130. Beaucoup de téléfilms.
Des téléfilms aussi.
Aussi, oui. Également. Et à ton avis, les films qui ressortiront et qui resteront pour le grand public?
C'est pour moi, c'est évidemment Le Guépard, mais aussi les films de Bobo Lonini, comme La Viaccia. Le film Les Notti Bianche avec Jean Sorel et Marcello aussi, oui. Et c'est une femme qui a eu une vie aussi un peu particulière, puisque...
Sa vie personnelle, tu veux dire,
personnelle, oui.
Elle a eu deux enfants.
Elle a été violée, et donc c'est Cristaldi, son producteur et mari, qui a adopté l'enfant, qui lui a donné son nom. Ensuite, elle a rencontré Pasquale Scutieri, avec qui elle a fait d'autres films, qui était aussi réalisateur. Elle a eu une fille qui s'appelle Claudia, et puis deuxième fille également. Voilà.
Et donc, elle a vécu les dernières années de sa vie à Nemours, parce qu'il y avait une de ses filles qui était là-bas. Ouais, ouais. Et puis également, on peut préciser que la cérémonie sera donc mardi à 13h30 à l'église Saint-Roch. Ça sera l'église des stars. Ouais. Et après, ça sera dans l'intimité. Voilà. Mais ça, c'est mardi 14h30. Je crois s'il y a des gens qui veulent peut-être aller lui rendre un dernier hommage. Mais pas de fleurs, simplement donner un don parce que sa fille avait et elle-même avait créé une fondation.
Ouais.
Une fondation pour les artistes qui ont des difficultés. Et donc c'était plutôt ça qu'elle voulait, que peut-être les gens donnent un petit peu quelque chose dans cette fondation.
D'ailleurs, elle s'appelle la Fondation Claudia.
Claudia, voilà. En plus, la fille s'appelle aussi Claudia.
Oui, oui. Et puis, elle était engagée dans sa vie pour la cause féministe aussi. Hein, et elle était ambassadrice de bonne volonté à l'UNESCO, justement pour le droit des femmes. Donc, c'était une femme qui n'était pas qu'une actrice, qui était aussi une femme forte engagée. Et engagée.
Alors, forcément, le 12 octobre, au Ciné-Club, on aura un film
voilà, qu'on n'a pas encore choisi. On est en train de voir ça avec Angelina. Et moi, je conseille... un livre qui s'appelle La Bella Confusione, c'est de Francesco Piccolo, que vous pouvez trouver à la librairie de Florence Rowe. Et c'est vraiment toute l'histoire de la carrière de Claudia, et notamment, on voit surtout la rivalité entre Fellini et Visconti, qui était vraiment tellement
complètement différent, c'est ce que tu disais à l'antenne.
Oui.
Aussi.
La Bella Confusione de Francesco.
Alors, Arte a commenté le décès de Claudia. Le cinéma a perdu son point cardinal. Je trouvais que c'était très beau. Et on termine avec une très belle chanson de Mine, qui chante « Sei grande, grande, grande ».
Não hanno mai provato. sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors on salue aussi également Jean Mazessi qui nous a donné quelques petits extraits que vous avez entendus. Et puis je salue aussi Guy Mazessi que vous pourrez réécouter bientôt dans les prochaines semaines. Et là, il y a deux annonces de cinéma, de films sortent.
Oui, oui, on avait reçu en juillet des organisateurs de la série Venezia e Viva, c'est-à-dire Ilaria Pastrolin, Marina Mazzotti et Guido Aloia, donc qui font ce ciné-club, cette sorte de ciné-club sur Venise, au cinéma Majestic Bastille. Et le prochain sera le 7 octobre, mardi 7 octobre. C'est le film est de Andrea Segre et c'est Il pianeta in mare. Et ce même Andrea Segre sortira le lendemain son film Berlinguer sur cet homme politique président du parti communiste italien qui a essayé de convaincre l'URSS de modérer un peu.
Et puis de se mettre à gouverner le pays avec Aldo Moro.
Oui,
c'est pour ça que malheureusement Aldo Moro a été assassiné.
Le compromis historique, oui, voilà. Donc le film sort le lendemain, donc le 8 octobre. Donc, il s'appelle Berlinguer et le premier, celui du mardi, Il pianeta
Merci Alain pour cette bio, c'était très sympa, même si malheureusement, voilà, on est un petit peu triste, on a il cuore un poco aussi. Alors on salue Rodolfo Bertagna qui est avec nous aujourd'hui, et puis un autre Claude qui est mis à l'honneur ce matin dans Cappuccino, Claude Malpelli, itinéraire d'un fils d'émigré italien. Ciao, come va?
Ciao Michel, bonjour à tous. Ça va, très bien, merci.
Alors, on a décidé que dans Cappuccino, dans cette saison, eh bien, d'inviter aussi des gens qui finalement ne sont pas des vedettes de cinéma et qui ne font pas de théâtre, tu ne fais pas de chansons, non tu
chantes... J'ai essayé, mais ce n'est pas mon domaine, hein, sincèrement.
Voilà. Mais par contre, tu as eu une vie de fils d'émigré, ordinaire, simple, mais joyeuse.
Ordinaire, oui, joyeuse, sûrement. Ouais. Simple aussi, quoi.
Voilà, et c'est pour ça que c'est sympa aussi de faire découvrir des émigrés, des fils d'émigrés aussi. Période d'après-guerre, ont vécu des fois des moments difficiles et puis aussi des moments de joie. Alors, tu es né à Montreuil et tes parents sont émigrés de la région de Parme, exactement d'un petit village qui s'appelle
Borgo Valditaro. Et Bourgzin, comme on dit chez nous.
Alors, dis-nous, c'est déjà ce petit village. Où est-il ?
C'est un petit village qui est à peu près à 50 km de Parme et à peu près à 80 km de Gênes, dans une petite montagne des Apennins, l'Apennino.
Alors, moi, je suis passé tout à fait par hasard cet été à côté, avec il y a l'autoroute qui passe à côté. Et c'est vrai que c'est quand même la moyenne montagne. Il y a beaucoup de forêts. Il y a beaucoup de nature.
Ah, il y a beaucoup de nature, hein. Ça ressemble un peu à l'Auvergne. Hein. Il y a à peu près 500 mètres d'altitude.
Voilà, un village de 7000 habitants.
7200 habitants en temps normal. Et en été, avec le tourisme, on arrive facilement à 10 000. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve à Bogota ? Il y a des spécialités culinaires. Hein.
Ah oui, en commençant par il portino, le champignon. Et justement, je pense que ce week-end, il y a la foire aux champignons à Bogota.
Si vous êtes dans le secteur.
Ah oui, ça vaut le coup d'y aller. Hein. Ouais.
Alors, on rappelle que c'est le cep, hein, parce que c'est, là-bas, c'est que le cep, hein, parce qu'il y a d'autres endroits en Italie, dans le nord de l'Italie notamment.
Oui,
c'est la truffe, etc.
Voilà, mais non, c'est spécialement le cep, hein, le portino.
Tu vas, toi quand...
Oui, si, j'y vais régulièrement. Et j'y suis allé justement à cette foire il y a 2 ans. Et c'est très instructif et c'est très bien, quoi. On trouve de tous les ceps partout.
Alors, tes parents ont émigré donc en France. D'abord, en quelle année ?
Mon père est arrivé vers 1950. Il avait été recruté par une société Vallourec, qui est dans un métallurgiste. Et à ce moment-là, ils cherchaient beaucoup de main-d'œuvre pour venir travailler en France. Donc, ils sont venus en Italie pour les recruter. Et il est venu, il a travaillé 2 ans avant que ma mère le rejoigne là-bas, en 1952.
Ah oui, c'était souvent comme ça, hein. Les pères partaient avant
pour
un peu voir comment ça se passait, et puis les mamas venaient après. Quoi,
hein. Si tout allait bien, ils venaient après, ils suivaient.
Ce qui est étonnant, c'est que là, souvent, dans le cas d'après-guerre, ce n'étaient pas les immigrés qui venaient comme ça d'eux-mêmes, mais il y avait des entreprises françaises qui venaient les recruter. Explique-nous.
Ben, ils allaient là-bas, ils cherchaient, il y avait des réunions, et il s'est retrouvé là, maman, et bon, il a dit oui, ça m'intéresse. Et voilà, alors comme ils étaient six frères, donc ils sont séparés, c'était les périodes où il n'y avait pas beaucoup de travail en Italie. Donc, y en a deux qui sont venus en France. Deux ont été plutôt en Argentine, car bon, ils ont voulu essayer plus loin. Les deux autres, ils ont attendu que ça se passe pour venir en France plus tard.
C'est ça, et on allait un peu où le vent était voilà. Le meilleur. Hein,
tout
ça,
à fait.
Ouais. Alors, ton père...
Bien sûr.
Des souvenirs extraordinaires avec ses parents et ton papa aussi. Là, tu m'as dit, moi, dans les chansons que je veux choisir pour aujourd'hui, je voudrais choisir une chanson en français. J'ai dit, tiens, une chanson en français. Mais en fait, oui, je comprends parce que tu voulais choisir la chanson de Daniel Guichard, Mon Vieux. Pourquoi ?
Alors, Mon Vieux, car les paroles dans son texte, ça relate bien aussi la vie de mon père. Car mon père, quand il a été recruté, il a été à Usinor, il a travaillé, il faisait les 3-8. C'est-à-dire qu'une semaine, il travaillait le matin, une semaine l'après-midi et une semaine la nuit. Et comme il travaillait à Noisy-le-Sec, il y allait toujours en mobylette. Et c'est pour ça que ça me rappelle toujours que quand il dit au début de la chanson, il s'en allait l'hiver, l'été, je le voyais partir en mobylette le soir... comme ça, pour commencer à 10h, il revenait le matin à 6h, c'était...
C'était vraiment une vie de travailleur.
Ah oui, c'était vraiment, et c'est grâce à nos parents, on peut le dire, que nous, après, les fils d'émigrés, on en est là, quoi.
Ouais. Et ça parlait à tout le monde, cette chanson.
Ah oui, tout à fait. Je pense que ça évolue, beaucoup de personnes se retrouvent dans cette chanson.
On l'écoute tout de suite.
Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. L'été, on allait voir la mer, tu vois. C'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis. Eh ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue, mon vieux. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotones, on ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu, mon vieux. Nous, on connaissait la chanson, tout qui passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé, c'est dehors que j'allais chercher pendant quelques heures l'évasion. Je sais, c'est con, dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa,
merci Claude.
De rien, merci,
merci
à vous.
Pour cette chanson parce que, waouh, il battait quoi, hein, il va fort là, hein, c'est vraiment quelque chose d'émouvant. De... Tout le monde repense à plein de scènes.
On a tous quelque chose dans cette chanson, ouais. On a tous une part de nous.
Ouais. Bravo à toi. Merci. Alors on rappelle que nous sommes avec Claude Malpelli, qui est un fils d'immigré italien qui vient nous parler de sa vie, il nous a parlé de ses parents qui sont venus en France. Donc comment ça s'est passé tu es né en France ?
Oui, je suis né à Montreuil même, ouais. En 57.
Et donc là, comment ça s'est passé avec tes parents ? Alors c'était comment, une ambiance italienne ? On parlait comment ? Italien, français, patois
Voilà, t'as tout dit. c'est un mélange de tout.
Ouais.
Et c'est vrai que surtout ma mère... Quand on commençait une phrase en italien, en continuant en patois et en finissait en française.
C'était un mélange. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'on en parlait en antenne, c'est qu'il fallait être intégré. Quoi, hein. C'est ce que tu disais.
Ah, oui.
Et donc, il n'y avait pas trop d'amis italiens. Même à l'école, c'était beaucoup...
Départ, c'était un peu pas compliqué, mais c'est vrai que c'était un peu... Il n'y avait pas trop d'amis italiens. Il y avait beaucoup de français, polonais, tout ça. Et d'abord, mes amis, les premiers amis que j'ai eus dans la rue, c'était des Polonais, quelques Français, et bien sûr, après, notre troupe italienne, quoi.
Oui, parce qu'on rappelle quand même que Claude, on en parlera aussi de ça, parce qu'il a deux prénoms, en fait. Pour l'Italie, voilà. Et avec Rodolfo qui est là, ils ont créé il y a quelques années une association qui s'appelait l'API, l'Association des provinces italiennes, qui était une très, très belle association. Un petit peu en stand-by en ce moment, mais toi, tu étais le trésorier, je crois.
Oui, tout à fait, ouais.
Et vous avez fait des très, très belles fêtes. Moi, je me rappelle notamment à Romainville. On salue Rodolphe. Alors, donc voilà, tu as eu une ambiance un peu italienne, mais il fallait quand même s'intégrer. Et après, toi, tu as fait quoi ? Alors, quel métier tu as choisi ? Quelle formation ?
Après, j'ai fait bien sûr le collège et après je me suis mis dans la technique et j'étais dans un centre de Paris et j'étais à la commerce de Paris pour faire de la technique, pour passer un brevet de technicien.
Technicien, ce qui t'a permis après de... être embauché dans une entreprise qui réparait les télévisions.
Entre autres, oui, c'était un pas audiovisuel. Quoi.
Magnétophone,
tous les appareils au départ à ce temps-là.
Ouais.
J'ai commencé avec les télévisions encore à lampe, bien sûr noir et blanc, et après, ça a évolué.
Ouais. Ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, on se rappelle tous, hein, on a eu des télés qui faisaient 50 kilos, terrible, avec des lampes. Et quand elles ne marchaient plus, mais c'était un drame national.
Ah, tout à fait. Hein.
National, on appelait le réparateur et c'était pire que le docteur. On se demandait, dans combien de temps il va venir ? On n'a plus de télé, c'est horrible, c'était ça ?
Ah oui, c'est tout à fait ça. Hein. Au départ, on nous entendait presque au port de la porte. Là,
Oui, presque à pleurer. Venez vite.
Il faut se dire que beaucoup de personnes seules, surtout que j'avais beaucoup de personnes âgées, ils avaient presque que ça dans la vie. Ils passaient leur temps devant la télé. Le soir, ils n'avaient pas leur téléviseur.
Oui, c'était compliqué. Ouais. Alors, on va écouter une chanson aussi que tu as choisie. Là, c'est Adriano Celentano, Il ragazzo della Via Gluck.
Voilà.
Perché ?
C'est une chanson qu'on écoutait bien avec tous mes amis italiens de la nation régulièrement.
Tant qu'on l'écoute tout de suite. Celentano.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gru
si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico disse, qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Wow, wow. Passano gli anni, ma 8 son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada. Ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla. Torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, la trame cemento. Là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba. E no, e andiamo avanti così, chissà come si farà.
Une chanson qu'on écoute depuis déjà 30 ans et qu'on adore. Nous sommes avec Claude. Alors, donc, on a compris que tu étais un petit peu attendu comme le Messie pour réparer les télés. Et puis, il t'est arrivé des fois des choses assez étonnantes.
Ah oui,
notamment, tu as bu des coups avec des gens connus. Hein.
Ah oui, tout à fait. Une fois, on m'appelle pour faire un dépannage. J'y vais. Bon. Je ne sais pas qui c'était sur le coup. J'arrive. Il y a un monsieur qui m'ouvre la porte. Vraiment une grande allée, très beau, tout ça. Il y a un monsieur qui est assis à côté de son bar, qui me dit « Ah, ben c'est ma femme qui vous a appelé, qui a un problème de télé, mais moi, je m'en occupe pas. Ben, approchez-vous. » Je m'approche, je dis « Mais c'est une tête que je connais. » Et à la fin, je vois que c'était Jacques Higelin.
Ah ouais,
alors, voilà. Alors, super. Je m'assois à côté. « Oh, ben attendez, le temps que vous attendez ma femme, on va boire un verre. » Et comme c'était la période du Beaujolais nouveau qui est arrivé, ben, je peux dire que j'ai pris un verre de Beaujolais nouveau avec Jacques Higelin.
Voilà, c'est génial.
Que ça arrive, ces petites anecdotes.
Et avec d'autres aussi, hein.
Oui, oui, ben, il y avait d'autres. J'ai eu beaucoup de contacts comme ça, oui, oui.
Le frère d'Yves Montand aussi.
Ah hein. Oui, j'ai eu aussi la famille Yves Montand, qui était dans Paris.
Et puis alors, par contre, tu as eu une chose qui t'a choqué quand même, on en reparlait, tu m'as dit, oui, ça t'a choqué, c'est une femme qui t'a demandé de réparer sa télé, bon, ça c'était normal, bon, elle a pas demandé à ce que tu couches avec, hein. Bon, mais bon, ça a dû peut-être arriver, mais ça tu le diras pas. Hein.
J'avais 20 ans et elle avait été un peu
petit
plus âgée.
Mais bon, voilà. Et donc du coup, tu lui répares sa télé, mais finalement c'était pas quelque chose de très, très important. Alors tu lui dis, mais vous n'avez pas quelqu'un dans votre famille qui aurait pu faire ça.
Qui pouvait faire la réparation. C'est un réglage de chaîne, de canal. Dit bon, c'est dommage de payer une intervention. Alors vous aurez peut-être pu le faire, vous, quelqu'un de la famille ou vos enfants. Et j'ai vu que quand j'ai dit vos enfants, elle est restée immobile. Et elle me dit, mes enfants, j'ai un fils, mais si vous savez, ben non, je ne sais pas. Il est parti à Rome, il a trouvé une Romaine, et maintenant il s'est marié avec. Et oui, et il ne vient jamais ici. Ah, je ne veux pas qu'il vienne, qu'il amène ici. Ben pourquoi ? Ben si vous avez, vous ne vous rappelez plus, pendant la guerre, les Italiens, ce qu'ils ont fait ? Ah non, non, c'est impossible, hein, non, non. Moi, je n'oublie pas, hein. Ouais, et là, je ne sais plus quoi dire. Ouais. À 20 ans, vous êtes là, vous dites ça directement. Bon, ben, je dis rien, je laisse aller. Bon, ben, ça va, c'est réglé, je fais la facture, je m'en vais. Elle me donne 5 euros de pourboire, j'ai dit, je les prends quand même. Et en descendant l'escalier, je cogite un peu, je dis quand même, ça ne se fait pas tout ça. Et je ne sais pas ce qui m'est arrivé à ce moment-là. Il y avait une petite poubelle à côté de, avant de sortir. J'ai mis directement les 5 euros à la poubelle et je suis parti.
Ouais, tu voulais pas de c'est cet pas, argent-là.
J'ai ça pas réfléchi, ça m'a semblé bizarre, ouais. J'ai pas compris. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué souvent, que sur certaines personnes, quand j'allais dépanner, on parlait d'italien, tout ça, il y avait toujours cette histoire, qu'on en voulait, mais il y avait toujours quelque chose qui restait, un peu de rancœur.
Ouais, un peu de rancœur. Et c'est marrant parce qu'on en parlait aussi de cette chose-là, c'est que, ouais. En fait, c'est vrai, tu m'as fait un petit peu ouvrir les yeux par rapport à ça, c'est que, c'est normal, les Italiens, on sait ce qui s'est passé, etc. Donc c'est normal qu'on soit un petit peu en colère contre eux, encore que bon, voilà. Mais en fait, c'était moins contre les Allemands.
Tout à fait.
C'est ça qui est assez étonnant. Ouais. C'est quand même les Allemands qui ont fait des trucs monstrueux, quoi. Voilà. Bon, voilà. Et voilà, on avait plus une petite dent contre les Italiens que contre les Allemands.
Oui, mais même que j'ai eu quelques clients qui étaient d'origine allemande, tout ça, il n'y a jamais eu de problème, ou personne ne
jamais
disait
rien par rapport
non, non.
à ça. Ouais,
non,
ça,
non, il y a eu...
C'est assez étonnant. Alors, tu devais nous dire une phrase avant qu'on oublie du patois de chez toi.
Ah oui, le patois bourguesin, comme on dit de chez nous. Alors, qu'est-ce que je peux dire comme phrase ? D'où vindou ma manière à Besdi ?
D'accord. Alors, il a compris, Renato, qu'on salue qui est à côté. Ou tu vas manger ce midi, quelque chose comme ça ?
Ou allons-nous manger à midi ?
Voilà, voilà. On parle encore beaucoup le patois chez toi ?
Non, les jeunes, non. Non. Bon, les personnes d'un autre âge, plutôt. Nous, on parle un peu patois, moitié italien, quand on arrive là-bas, bien sûr, mais c'est plus comme avant, non, c'est sûr.
Alors, rapidement, tu t'appelles Claude et Claudio Perché.
Alors, car en Italie, je suis né en France, mais j'ai gardé la nationalité italienne jusqu'à 20 ans. Et à 20 ans, mon père m'a fait naturaliser français. Donc, on y a été, tout ça. Et sur les documents italiens, il marquait Claudio et non Claude. Car il y avait une loi de Mussolini qui interdisait en ce temps-là les prénoms français, étrangers, disons, pour les Italiens.
Ah, d'accord. Donc, du coup,
on se retrouvait, comme
Claudio.
Beaucoup de notre génération, avec deux prénoms, un prénom italien et un prénom français. Ouais, alors, ouais. Ce qui apportait des problèmes quand on arrivait en Italie pour faire quelques papiers.
Oui, parce qu'à un moment donné, tu t'es retrouvé à la frontière parce qu'on voulait te réquisitionner pour faire le service militaire en
Tout
Italie, alors que tu l'avais déjà fait en France. Et donc, du coup, tu t'es amusé à jouer aux cartes avec les
Voilà,
les,
disons qu'on allait régulièrement avec des amis italiens à Bardonecchia, que je salue en même temps en passant, des amis de la Nation. C'était un samedi soir, on mangeait dans le petit restaurant qu'on était tous ensemble. À un moment, on voit un Alfetta qui arrive à toute vitesse. Les carabinières qui viennent, il dit « Monsieur Claudio Malpelli, monsieur Intel, vous pouvez nous suivre. » C'est bizarre, on a compris tout de suite ce qui se passait. On les a suivis, ils nous ont emmenés à la dogane, tout ça. Et là-bas, on dit « Vous êtes déserteur de l'armée. » Alors là, on dit « Nous, on a fait l'armée en France, j'ai mes papiers, tout ça. »« Oui, mais nous, les papiers français, ça ne veut rien dire. Pour nous, en Italie, vous êtes déserteur. » Bon, alors il dit, on va appeler notre ville, tout ça, en Italie. Mais comme c'était samedi soir et le comune s'était fermé, il dit, on va attendre et on verra ça demain. Alors, pendant ce temps-là, ils ont bien vu qu'on était sincères. Il dit, on va rester là. Et à un moment, on était là, on ne savait plus quoi faire. Et les douaniers nous voyaient, ils voulaient faire une brisque. Mais avec les douaniers, on a fait une brisque, comme ça, pour passer le temps. Et après, pendant ce temps-là, il y a le cuisinier du restaurant qui n'arrêtait pas de les appeler en disant « Ben, moi, j'ai ma soupe al minestrone qui commence à refroidir, il faut les faire rentrer. Voilà, » Et à la fin, on est rentré à la maison. Et le lendemain, ils ont appelé la commune d'où j'étais de Valmosola. Et bon, tout était en règle, mais au départ, c'était une anecdote. Bon.
Sympa. Alors, on termine. Juste, tu es quand même amoureux du rugby. Bon, on n'a plus le temps de trop
en
parler.
Le sport italien, en général, sport d'Italie. Je suis tous les sports.
Et tu vas quand même régulièrement là-bas. Hein. C'est important pour toi d'y aller au moins 3 fois par an.
Oui, oui. Là, je vais y aller
un appartement là-bas.
Oui, j'ai un appartement. Je vais régulièrement 2 fois, minimum 2 ou 3 fois par an, quoi.
D'accord. Donc, merci à toi, Claude.
Merci à vous tous.
On va terminer avec une chanson que tu as choisie aussi.
Oui.
Beaucoup de gens qui sont émigrés ou que leurs parents émigrés choisissent ces chansons. Je pense à pas mal de gens, Enrico, que je connais. Et c'est I Nomadi, Io Vagabondo, perché.
Voilà. C'était une chanson, c'était une autre période de notre jeunesse qu'on était là-bas. Merci à tous.
Merci, ciao.
In tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto.
finito.
Eh bien, c'est dit, Michel.
Voilà. Alors, on s'excuse oui. un peu pour le téléphone parce que c'est un peu de la confusion. Parce que, comme on vous dit, on a un portable. C'est toujours le même numéro, mais on a un petit peu de mal à décrocher parce que quand on est au micro, donc c'est pour oui, ça que.
Des fois, on entend mal.
On n'entend pas très bien, donc c'est pour ça.
Même l'auditeur, s'il appelle sur un portable.
Oui, voilà. Donc, du coup, il faut insister et on est quand même toujours là. Il n'y a pas de problème. 01 40 24 29 29. On vous remercie, c'est une belle petite émission, je pense, bien remplie.
Toujours.
Hein, toujours. On salue Enrico et puis nos invités.
Mais bien sûr.
Et puis on se retrouve.
Enrico Mastro
quand...
Giovanni.
Oui, Mastro Giovanni.
Mastro Giovanni. Ah, ça va rester ça. Cantaline, on se retrouve malheureusement que dans 3 semaines.
3 semaines.
Voilà, et puis Renato, on le salue, ils sont derrière avec Rodolphe et puis également Claudio. Et nous, on se retrouve quand déjà?
Mais dimanche prochain, Michel, stessa ora, stessa frequenza, santo Dio.
À 8h.
Toutes nos auditrices, Marianne, etc. Ils vont, c'est trop long une semaine. Il devrait y avoir que des dimanches. Là. Hein?
Les jours
de la semaine, voilà. Oui.
Allez, ciao à toutes.
Ciao,
que ce soit toujours dimanche. Ciao.